I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Minute Papillon.
Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu quotidien de 20 minutes. Aujourd'hui, on évoque des souffrances en milieu engagé, dans des associations, des entreprises sociales et solidaires. On en parle avec Pascal-Dominique Rousseau, qui signe une enquête sur ce thème. Souffrance en milieu engagé, c'est l'enquête de Pascal-Dominique Rousseau, publiée ce jour aux éditions du Faubourg. La journaliste raconte comment le secteur des entreprises et associations sociales et solidaires, qui portent le sens de l'engagement en bandoulière, deviennent parfois des bourreaux pour leurs salariés. Car le militantisme des personnels ne peut être un mode de gestion de ressources humaines dans ces organisations, au risque d'exercer une pression démesurée sur les salariés. Cette enquête nous mène dans des associations telles qu'Emmaüs, France Terre d'Asile, le groupe SOS, mais aussi les mutuelles Massif et Corum. Écrivant depuis plusieurs décennies sur l'économie sociale et solidaire, Pascal-Dominique Rousseau enquête sur un milieu qu'elle connaît très bien.
Depuis une quinzaine d'années, il y a une évolution qui me paraît dommageable et que j'ai pu observer dans mon dernier emploi, puisque j'étais employée comme journaliste dans une mutuelle. Et c'est à partir de ce que j'ai vu et observé que j'ai décidé d'écrire un livre quand je serai à la retraite.
Le secteur social et solidaire aujourd'hui, c'est 2,4 millions d'emplois, si je ne me trompe pas. Pourquoi le secteur social et solidaire attire-t-il autant ?
Parce que c'est un secteur qui a du sens. Et je pense que l'entreprise lucrative classique n'offre pas ce sens-là. On ne sait pas pour qui on travaille, pour des actionnaires. Alors justement, l'économie sociale et solidaire n'a pas d'actionnaires. Elle est normalement porteuse de sens. Or justement, ce qui se passe, c'est que ce sens, il a quand même tendance à disparaître. Comme je vous le disais précédemment d'ailleurs, les associations sont soumises depuis 20-30 ans à des systèmes de concurrence à travers des appels d'offres qui ont beaucoup modifié la vie associative et leur rapport au pouvoir public.
Vous montrez une grande souffrance, notamment des salariés. Je lis quelques-uns des qualificatifs que vous utilisez. Il y a des humiliations, des mises à l'écart, une cécité des instances dirigeantes, une organisation du travail parfois pathogène, voire schizophrénique, des dénis de l'employeur, une absence de vie démocratique, une impréparation des associations au salariat, une univoque course aux résultats, un univers parfois inhumain pour les salariés et le public accueilli. C'est un commentaire très dur sur ces entreprises.
Oui, il y a le fait que ce sont des organisations, les associations, qu'elles soient petites ou grandes, qui se disent militantes. Elles ont cette promesse du militantisme. Et je pense que les jeunes, justement, qui rentrent dans ces associations, que ce soit SOS, que ce soit France Terre d'Asile, que ce soit Emmaüs, c'est aussi par choix militant. Ça veut dire que ces personnes-là, elles veulent être à la fois professionnelles et elles veulent aussi être militantes. Mais, comme l'explique un syndicaliste du SMA CFDT, Alain Pelé, qui explique très très bien que les directions sont souvent dans le déni d'avoir les devoirs d'un employeur. C'est dans ce sens qu'elles sont décevantes, parce qu'elles font appel au militantisme comme mode de règlement des gestions des ressources humaines. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que elles se sont souvent dotées très tardivement de directions de ressources humaines, que ce soit à Emmaüs, que ce soit à France Terre d'Asile, par exemple au groupe SOS. Dans cet appel au militantisme, beaucoup de jeunes sont très attirés par SOS, parce qu'SOS intervient dans tous les secteurs. C'est une entreprise de 18 000 salariés qui a repris beaucoup de petites entreprises très en difficulté. Sa figure emblématique, son président, c'est Jean-Marc Borello, un grand ami du président
Emmanuel Macron,
mais qui a toujours su très bien se mettre avec le pouvoir, mais qui par ailleurs a eu beaucoup de créativité, indéniablement, qui a démarré dans les années 80, qui a monté des choses tout à fait intéressantes pour les personnes atteintes du sida, les personnes séropositives. Il a su faire des choses avec beaucoup de talent et puis il avait le sens de l'entreprise. Simplement, aujourd'hui, il gagne tous les appels d'offres et évidemment, c'est facilité par sa proximité avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et également le pouvoir central, indéniablement. Et dans cette entreprise qui attire, qui est vraiment un aimant pour des jeunes très diplômés, eh bien, certains sont élus, rejoignent la direction et d'autres sont très diplômés, mais font des burn-out, sont épuisés et sont souvent très, très mal payés. Donc ça, c'est quelque chose que je dénonce. Et il y a aussi une demande à SOS d'agilité, c'est-à-dire l'agilité, comme on dit dans n'importe quelle entreprise du CAC 40, et un désordre même. J'ai constaté, enfin, au vu en tous les cas des témoignages et au vu même de ce que me dit la direction, de ce que m'a dit la direction, pardon, il y a des témoignages qui prouvent que vraiment ces performances et utilité sociale se mêlent, c'est-à-dire qu'on demande le maximum au nom de l'utilité sociale. Ces SOS, par exemple, on dit tout le temps aux jeunes qui sont entrés, mais enfin, tu as la chance de travailler à SOS, ça fait sens quand même le travail que tu fais. De quoi te plains-tu ? Ici, c'est bien, il y a énormément de gens qui attendent à l'extérieur pour avoir ton travail. Dans le travail social, comme à France Terre d'Asile, on voit aussi que, d'abord, les salariés sont payés en dessous de la convention collective, selon ce que disent des témoins qui me l'ont rapporté. Ils donnent beaucoup pour des migrants, s'occupent de réfugiés, et en contrepartie, ils sont extrêmement mal payés et ont des journées absolument épuisantes.
À rallonge,
avec une forme de maltraitance. À la fois, on pourrait dire, de maltraitance institutionnelle, un peu, c'est-à-dire le public n'est pas nécessairement bien traité, mais là, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités, et les salariés ne sont pas non plus toujours bien traités. Donc, ça fait un ensemble qui n'est pas extrêmement agréable, et il y a des burn-out, là aussi.
Burn-out, notamment, vous avez parlé avec Frédéric Amiel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette personne ?
Alors là, il y a une autre expérience. Frédéric Amiel travaillait à Greenpeace. C'était au moment 2015, au moment de la préparation de la COP21. Et c'était un moment donc très intense de travail pour toute l'équipe de Greenpeace. Et il faisait partie donc des 15 personnes responsables de cette préparation. Et ils sont trois à avoir fait un burn-out. Il a demandé à son employeur, Jean-François Julliard, à ce qu'il y ait des psychologues qui interviennent, qui puissent aider les personnes. Il a demandé aussi qu'il y ait la possibilité que les employeurs, dans ce cas-là, mettent en place des systèmes d'alerte et soient capables d'arrêter l'activité. Greenpeace a mis en place depuis lors toute une stratégie de prévention des risques psychosociaux dont je parle dans le livre.
Il y a un moment, vous faites intervenir Nadine Richer-Battesti, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, et qui dit dans ce livre, il y a une confusion entre la mission sociale et l'organisation en interne dans ces entreprises sociales et solidaires. Les associations qui se portent bien sont celles qui ont travaillé sur leur gouvernance. Est-ce que c'est ça la vraie clé ?
En tous les cas, je pense que c'est une clé très importante. Et la deuxième clé, c'est que, tout en ayant un contrôle de leur financement, il faut que les associations cessent d'être des sous-traitantes des pouvoirs publics, mais qu'elles soient des partenaires des pouvoirs publics.
Parce qu'elles sont en concurrence ces entreprises sociales et solidaires et des entreprises classiques.
Oui.
La lutte pour la rentabilité, le moins cher,
et y compris, elles sont en concurrence entre elles.
Oui.
Donc, on va faire baisser les prix de journée, et donc, après, ça crée de la précarité. Ça crée du malaise et auprès des publics accueillis, que ce soit les migrants, les SDF. Et ça crée du malaise chez tout le monde et un manque de professionnalisme à terme.
Vous tracez d'autres éléments qui pourraient améliorer cette situation ?
Alors, je pense que l'exemple de Greenpeace est un bon exemple de ce qu'on peut faire. On peut faire un droit de retrait aussi lorsque la souffrance est trop grande. Il y a des exemples et il y a une jurisprudence qui peut permettre à des salariés de refuser s'il y a des burn-out excessifs. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut que les employeurs de l'économie sociale et solidaire prennent en main cette affaire de la souffrance au travail, des risques psychosociaux. Parce qu'on l'a bien vu dans l'affaire de France Télécom, il y a des choses très graves qui se passent. Et si on demande trop aux salariés, personne n'est à l'abri d'une jurisprudence. Et il faut que les entreprises de l'économie sociale et solidaire prennent la mesure des choses et qu'elles prennent une longueur d'avance par rapport aux autres entreprises.
Merci encore à Pascal Dominique Rousseau. Son livre publié aujourd'hui, Souffrance en milieu engagé, aux éditions du Faubourg. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. On se retrouve demain. Portez-vous bien.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.